Dans ce bain de culture, imaginez le Petit Prince, Ibn Battuta, les étoiles, une map monde, bref, l'aventure nous attend au coin de la rue, c'est bien connu. Un magazine qui commence sans plus attendre, sans plus tarder avec l'un des organisateurs du prochain printemps des livres et des arts dans la ville du Détroit.
Puisque vous partez en voyage,
puisque nous nous quittons ce soir,
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Vous avez posé vos bagages.
Bonjour, Larbi Remiki.
Bonjour, Florence.
Alors, on le sait, votre vie professionnelle n'est pas du tout sur Tanger, ni même le Maroc. Vous êtes plutôt du côté des États-Unis en ce moment, à Washington. Mais votre ville de cœur, eh bien, on va dire que c'est Tanger. Vous êtes président de cette association qui s'appelle Tanger Région Action Culturelle. Et avec nous, donc, ce matin, vous êtes là pour nous parler de ce 23e printemps du livre à Tanger.
Écoutez, d'abord, c'est moi qui vous remercie. Et vous savez que dans la vie, des fois, on subit des aventures. Et l'aventure m'a mené de l'autre côté de l'Atlantique, en effet. Mais comme vous dites, mon cœur est au Maroc, et particulièrement ici à Tanger, donc où je reviens pour la 23e édition du printemps des livres et des arts. Donc
23e
édition.
On se pince quand on dit ça.
Absolument, 23... c'est une véritable aventure qui a commencé il y a 23 ans, où nous étions l'association Tanger Région pour l'Action Culturelle.
Ouais.
On soutenait le Salon du Livre qui était vraiment encore bébé pratiquement à ce moment-là et qui se tenait simplement dans la cour de l'Institut français. Il y avait 2 ou 3 stands, quelques écrivains, et voilà. Donc après... l'aventure a continué.
Alors l'aventure, vous l'avez répété au moins 3 fois.
C'est la thématique.
Ça nous met la grosse puce à l'oreille.
Absolument.
Puisque c'est la thématique de cette 23e édition de ce printemps des livres et des arts à Tanger. Alors on va faire un petit exercice.
Mm-hmm.
Je vais vous donner la définition de l'aventure.
C'est une définition
très très simple. Hein, très très simple. L'aventure c'est quoi? C'est un événement imprévu, extraordinaire, surprenant. Alors, où est-ce que vous allez nous emmener à partir de la semaine prochaine pour ce printemps dédié, donc, enfin, sous l'emblème de l'aventure?
Alors, on va vous emmener partout. Et si vous permettez, je vais ajouter quand même quelque chose à votre définition. L'aventure aussi, c'est aller vers l'inconnu. C'est aussi la découverte. C'est aller aussi vers l'autre.
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
On vous emmène partout, partout. On vous fait faire un parcours des arts dans la ville de Tanger.
À chaque fois, vous mêlez tout ça.
Oui, absolument.
Ce n'est pas simplement
absolument.
Le livre, on est bien d'accord.
Non. C'est le printemps des livres et des arts. Donc, et on a voulu, en quelque sorte, on est au printemps. Et vous savez, tout jaillit, la nature revit. Donc, et c'est une façon finalement de faire revenir la culture, de faire revivre la culture à Tanger à travers plusieures expériences. Donc, que ce soit le livre, que ce soit la peinture, que ce soit l'architecture, que ce soit, les spectacles vivants, les grands concerts, donc tout ça. Vous allez nous accompagner, et le public de Tanger, j'espère, et au-delà de Tanger, évidemment, le public marocain et les gens qui nous sont fidèles et qui viennent d'ailleurs aussi.
À chaque fois, c'est un événement tentaculaire, polymorphe. Enfin, c'est-à-dire que vous voulez rassembler.
C'est cela. En fait, on est passé de cette ancienne nomination qui était le Salon du Livre.
Oui.
Au printemps, on a voulu ouvrir davantage, ne pas rester confiné dans ce terme salon. Un salon, c'est un lieu qui est localisé quelque part, peut-être fermé même, donc peut-être même très, disons, select. C'est pas ce qu'on veut. On veut un événement festif, grand public.
Et on
veut un événement où il y ait surtout beaucoup de jeunesse.
Et oui.
Voyez-vous, parce que ils n'ont pas l'occasion. Et c'est pendant ces 4 jours, on se rend compte qu'on les détourne un petit peu, vous savez, de leur portable. Les réseaux sociaux nous servent parce que quand même, ils communiquent.
Pour communiquer.
Ils communiquent. Mais ils ne seront pas obnubilés par l'écran de leur petit artefact malicieux. Je vais revenir quand même à Tanger. Tanger est la ville de toutes les aventures. Je ne sais pas pourquoi on a attendu la 23e édition pour traiter justement
sur ce thème-là,
parce qu'en fait, de là, tout est parti. Ibn Battuta, n'oublions pas le plus célèbre des aventuriers, est de Tanger, il est parti de Tanger. Mais au-delà de lui, on est quand même aux portes du Mare Nostrum, où toute la culture du monde, de là, tout est parti aussi. Vous voyez, que ce soit de l'autre côté probablement de l'Atlantique, mais en tous les cas vers l'Europe, vers l'Asie, vers... Donc l'aventure est là. Tanger est une ville qui est tellement spéciale et qui est... Tanger est aventure elle-même, vous savez. Tanger, n'oubliez pas que c'est Truman Capote, que c'est Paul Bowles, que c'est la Beat Generation, que c'est Choukri, que tous les gens qui ont à un moment donné voulu migrer vers un lieu qui allait changer leur vie, sont venus à Tanger. Voilà. Donc, et de là, donc, nous allons parler de tous ces gens-là. Mais l'aventure partant de Tanger, c'est aussi un volet quand même qui n'est pas toujours des plus, disons, heureux.
On est dans la migration, je parle dans le nu de la vie.
Absolument.
Vous avez une table ronde, effectivement,
effectivement,
sur l'aventure. Forcé,
c'est-à-dire
l'immigrant.
L'immigration n'a pas commencé avec les Africains.
Non.
Elle a commencé avec les Marocains aussi, qui sont partis de là et qui continuent de partir vers l'inconnu. Ce n'est pas une véritable aventure telle qu'on la conçoit, donc où il y a beaucoup de bonheur. Et,
oui, c'est pas Ulysse, c'est pas l'Odyssée.
Non, c'est pas l'Odyssée, justement, dont on va parler aussi. Et donc, mais l'aventure, c'est aussi... Tanger a été aussi une ville, finalement, qui a beaucoup inspiré donc, des écrivains. Donc, l'aventure de l'écriture, l'écriture au féminin.
Oui, j'ai vu qu'il y avait une table ronde.
Oui, absolument.
Une aventure difficile, quelquefois, pour écoutez, l'écriture au féminin.
Difficile, mais écoutez, moi, je ne vois pas pourquoi elle devrait l'être. Bon, c'est vrai qu'elle a rencontré quand même beaucoup, beaucoup de résistance. Les plus belles écritures viennent des femmes aussi, donc qu'elles soient... des poétesses arabes, des écrivaines britanniques, françaises, africaines. Je ne connais pas trop finalement, disons, la littérature asiatique pour pouvoir en parler, mais la femme est là et elle n'a pas l'intention de quitter l'espace. Donc, et elle a tout le droit, vous savez. Vous savez qu'à l'Académie française, on dit que lorsque Marguerite Yourcenar est arrivée comme première...
Bien sûr, c'était la première femme.
Donc, excusez-moi le terme, mais bon, il y avait, disons, des toilettes pour hommes, mais il n'y en avait pas pour femmes. Alors, ils en ont mis hommes et à côté Marguerite Yourcenar. Alors, c'est absolument magnifique, vous voyez. Mais là commençait aussi l'aventure de la femme académicienne. Mm-hmm. Heureusement qu'il y en a d'autres qui sont arrivées donc, sous la coupole maintenant. Same blood runs in every hand. You see, it's not the wings that make the angel. You just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily. Et l'aventure, c'est aussi le conte musical. Cette année, nous avons prévu ça. À travers vraiment tous les ateliers qui vont... à travers une très belle aventure quand même qui est au cœur du salon, c'est le plaisir de lire. Où c'est maintenant...
Alors c'est justement là, pardon, vous voyez, je vous arrête, mais le plaisir de lire, vous avez parlé des portables tout à l'heure, vous avez parlé des réseaux sociaux, magnifique, merveilleux, mais, le plaisir de lire, c'est qu'il faut le donner, le redonner, en tout cas le faire découvrir à des enfants qui quelquefois c'est un petit peu difficile avec tout ça. Donc c'est pour ça que vous travaillez avec les collèges, les lycées, enfin vous essayez un petit peu de faire entrer la littérature, de dire qu'un livre, regardez, c'est beau, il y a des pages, on peut les tourner, c'est magnifique.
Écoutez, moi je ne suis pas très pessimiste en ce qui concerne vraiment le devenir du livre. Hein, donc... Bon, il y a le livre numérique, évidemment, donc, qui est, disons, l'intermédiaire entre le téléphone portable et le livre. Si on doit passer par là, pourquoi pas? Mais vous savez que nous, on est surpris, parce qu'à travers justement ce concours, qui a quand même une durée, parce qu'il est fait en amont.
En amont,
c'est
oui,
pratiquement 5 mois, 6 mois, disons, de préparatif.
Vous préparez le terrain.
Oui, de préparer le terrain. Les livres sont fournis par l'Institut français. C'est fait en partenariat avec l'Académie de Tanger, donc la REF. Vous savez, on distribue des livres à des collèges et des lycées. Donc, surtout en zone rurale aussi, où ils n'ont pas accès aux livres. C'est très important, vous savez. Et on est surpris, on est absolument surpris par la qualité de l'analyse qui est faite par ces jeunes élèves et l'enthousiasme qu'ils mettent vraiment, je veux dire, à... Ils se prennent au sérieux. Et donc, pour venir à la fin, avec, en nommant un livre, qui est celui qu'ils ont le plus aimé, mais en argumentant. Donc, c'est formidable. Et quand on les voit... c'est une véritable fête de famille qui a lieu tous les vendredis d'habitude, lors de la remise des prix. Vous allez voir, mais c'est incroyable le nombre de gamins et de jeunes qui sont là, et incroyable aussi le nombre de gens qui se plaignent de ne pas avoir été impliqués. Mais vous savez, on fait de notre mieux, parce que maintenant la région est devenue de plus en plus extensible, elle arrive jusqu'à... pratiquement jusqu'à la Oujda, donc c'est dans le nord. Donc c'est Tanger, Tétouan, El Oussema, c'est très loin tout ça. Et malheureusement, on n'a pas les moyens ni humains ni financiers pour pouvoir couvrir la région, disons, dans sa totalité. Mais personne n'est en reste. Hein, donc on essaie quand même de sélectionner, surtout en mettant l'accent, comme je le disais tout à l'heure, sur le milieu rural, parce que ce sont eux qui ont le moins accès finalement donc aux livres, etc. Donc, mais voilà.
Midi, bain de culture avec Florence Blanc.
Vous avez aussi la musique?
Tout à fait.
Et c'est l'Orchestre National de Barbès qui vient cette
L'Orchestre
année.
National de Barbès
Alors,
qui vient pour la deuxième fois.
Alors c'est une sacrée fiesta.
Oui, c'est une sacrée fiesta. C'est la deuxième fois que l'Orchestre National de Barbès nous vient. Ils ont participé aux Nuits de la Méditerranée il y a très longtemps.
Il y a longtemps.
Ils ont eu un succès absolument considérable. Et là encore, c'est l'Orchestre National de Barbès, elle-même, c'est une véritable aventure. Parce que bon, elle est constituée, vous savez, de gens tellement différents qui font la fête ensemble, en quelque sorte. Vous savez, ça répondait... disons, à un moment où il y avait tout ce débat sur l'intégration, n'est-ce pas, donc en France, et Barbès, on connaît. C'est vraiment le quartier des immigrés, donc, et de là est venu l'Orchestre National de Barbès, comme si Barbès était extra-national par rapport à la France.
Exactement.
Et ça manifestait quelque chose, donc avec des messages très forts, finalement, à l'endroit des immigrés, donc pour revendiquer leurs droits, etc. Mais bon, ils viennent pour faire la fête. Cette fois, ils viennent avec aucun message politique. Ils viennent pour faire la fête. Je suis sûr qu'ils auront beaucoup de succès. Ils le méritent. Et justement, je profite de votre invitation pour dire aux jeunes que ce n'est pas de la musique classique. Mais
oui,
c'est
pas parce qu'il y a national.
Ah, oui, voilà. Ce n'est pas de la musique classique. Hein. C'est,
non,
c'est une
tout.
Fusion du rail, de tout. Quoi. Donc, et ça promet.
Comme vous dites, je m'adresse à ces jeunes pour leur dire que l'Orchestre National de Barbès, c'est du feu de Dieu, comme on dit. Richard Baquier, il va y avoir cette exposition donc à la Galerie de la Croix.
Qui est une très belle exposition.
Une très belle exposition.
Et en fait, ce qui a inspiré, disons, ce qui a provoqué cette exposition, c'est que cet artiste qui est mort prématurément,
très
quand même très jeune, à 43 ans, qui est de Marseille, a fait une très belle sculpture qui s'appelle L'Aventure, justement.
L'Aventure, oui.
Et
oui.
Celui qui l'accompagnait beaucoup dans son travail, qui est Yves Le Gallois, photographe, a donc consigné à travers les photos donc, toute cette aventure de Baquier. Donc, et ça promet une belle, belle exposition.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
Baquier, il disait, alors j'ai noté la petite phrase, qui disait, puisqu'il est de Marseille, donc il disait aux jeunes des cités, parce qu'il était aussi à l'école de Lumini,
absolument,
qui est dans les Calanques, là, à Marseille.
Absolument.
Et quand on est loin des cités, mais il disait aux jeunes des cités, ne restez pas là, plus loin est l'aventure. Voilà.
Absolument, j'aimerais bien reprendre justement cette phrase à notre compte et leur dire, ne restez pas loin. L'aventure culturelle est là, et à travers l'aventure culturelle, vous pouvez vraiment aller très très loin, parce qu'elle peut vous inspirer, elle peut vous permettre une introspection, ce qu'on fait rarement, et ce qui
l'aventure
est très
intérieure.
Important. Oui, l'aventure intérieure. Et ce qui est très important pour mieux se connaître, et mieux se découvrir, et mieux finalement tracer un peu, disons, sa trajectoire, et voir un peu plus clair son horizon.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel artificiel.
L'aventure, donc, pendant 4 jours, dans ce merveilleux endroit à Tanger. On va revenir un tout petit peu sur l'affiche, cette terre avec... C'est le Petit Prince, là.
C'est le Petit Prince.
Il a grandi, le Petit Prince. Hein. On voit la silhouette que c'est un...
Oui, oui, hein, bon, disons que c'est une aspiration.
Puis,
il regarde les étoiles.
Et puis, on a ces tentacules de « on se croirait dans 20 milieux sous les nerfs ».
Absolument. Il y a aussi Jules Verne aussi.
C'est Jules Verne, c'est
Jules Verne. Donc, vous savez que cette affiche, justement, donc, me donne l'occasion de parler de la petite pièce « Le Petit Prince », justement, qui sera... joué par le Petit Théâtre de Darna.
De Darna, oui.
Aussi, donc parmi oui, les marionnettes.
Ouais.
Le Petit Prince, qui est c'est mon livre de chevet, Le Petit Prince. C'est un véritable recueil de, disons, de philosophie. C'est une lecture pour enfants, mais tous les adultes devraient le lire et le relire.
Le relire,
surtout. Le relire, surtout. Donc, mieux le comprendre. Mais il y a aussi donc, l'aventure, vous parlez de Jules Verne, a parlé de Jules Verne, mais il y a aussi donc, Ibn Battuta, une pièce qui va être jouée, aussi présentée par les élèves de l'école américaine. On ne peut pas parler de l'aventure sans parler justement du Petit Prince. Vous voyez, donc, quelque part, j'aimerais bien qu'on retrouve en nous tous un petit prince, quelque part, qui se pose des questions sur l'aventure envers l'autre, l'amitié, vous savez, donc le cosmos, réfléchir sur le cosmos, parce que Saint-Exupéry, je pense qu'à travers un autre de ses livres, Vol de nuit, est absolument magnifique, c'est là vraiment donc, où toute l'aventure est, voyez-vous. Et donc, ces 4 jours, forcément, où on va vraiment donc, mettre un peu le paquet sur l'aventure. Mais l'aventure devrait être au quotidien. Vous savez, quand on se réveille le matin...
On dit souvent ça aussi, oui.
Vous savez...
l'aventure est au coin de la rue.
Au coin de la rue. Vous savez, Victor Hugo disait « Je ne sais pas de quoi demain sera fait ». Donc, vous voyez, donc, l'aventure est là. Il faut la vivre. Des fois, elle est heureuse. Des fois, elle l'est moins. Il faut surtout respecter aussi un peu les gens qui vivent cette aventure. Et là, je fais appel à... une forme, si vous permettez, de solidarité quand même et de respect pour tous ces immigrés qui sont là et qui ne sont pas là justement donc pour le plaisir des fois. Ils ont vécu une véritable aventure et ça, on n'est plus ni dans la lecture, ni dans l'introspection, mais c'est traverser, je veux dire, des terrains inconnus, traverser des déserts, des fois à pied, pour finalement, pourquoi ? Pour aller vers un monde meilleur. Et donc, il mérite tout le respect du monde.
On a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Des passeurs doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien. Sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Pas de salon, pas de cuisine.
Et sincèrement, je lance un appel à cette occasion pour que les gens soient plus solidaires avec eux et les regardent et les voient autrement, comme des êtres humains qui ne sont pas là pour leur confort, en fait, mais qui sont là parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons malheureusement alimentaires, pour des raisons justement de travail, et c'est de là... Tout cela que va traiter justement cette table ronde sur la migration.
D'accord. Donc ce printemps du livre l'aurait peut-être dédié d'une certaine façon. En tout cas, on aura ça dans la tête.
Il faudrait avoir ça dans la tête, mais je veux quand même conclure peut-être sur une note beaucoup plus, disons, heureuse et sur le fait que, bon, on va tous vivre cette aventure ensemble. L'aventure du livre, l'aventure des arts, l'aventure de la musique, l'aventure de la pensée, l'aventure de l'édition, donc l'aventure tout court, voilà.
On se donne rendez-vous à partir de jeudi prochain, c'est ça, c'est l'inauguration et on rentrera dans le vif du sujet le lendemain, donc le vendredi.
Absolument, ça sera vraiment, je veux dire, une belle ouverture avec une belle aventure musicale aussi de Touria Draoui, donc...
Elle est
fabuleuse, elle est simplement fabuleuse, elle va se produire pour l'ouverture et le samedi donc à 13h30 pour un autre concert dans ce bel espace qu'est le Palais Moulay Hafid et que l'aventure commence.
On vous dit à jeudi prochain.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Nous partons à Beyrouth pour cette deuxième partie de Bain de Culture, le festival de danse Bipod. Il s'est terminé hier soir dans la soirée avec une dizaine de représentations de compagnies qui étaient originaires d'Europe, mais qui proposaient aussi la 8e édition de Multaka Leioum. C'est une plateforme de danseurs, de chorégraphes du monde arabe, une vingtaine. Ils viennent du Liban, de Tunisie, de Palestine, de Jordanie ou bien encore d'Iran. L'une des vocations de cette rencontre, c'est de développer la danse contemporaine dans le monde arabe, faire découvrir les jeunes talents. Reportage in situ, Mélanie Way.
Des diapositives du poste de contrôle de Matraf entre Beyrouth Ouest et Beyrouth Est pendant la guerre civile, projetés sur un écran géant. Quelques mètres à côté, Rida Hachicho, assise à une table face à son public, décrit méthodiquement la danse des hommes contrôlant le barrage militaire, avant de reproduire, dans un silence assourdissant, leurs mouvements.
Il y a toujours eu beaucoup d'imagination autour de la ligne de démarcation. La ville était séparée en deux et il y avait comme un espace de no man's land. Ça a fini par vraiment m'intéresser. J'ai fait des recherches, puis je me suis demandé comment peut-on définir ces espaces de postes de contrôle, quel type de mouvements s'y produisent, quelle chorégraphie peut-on imaginer.
Rida Hachicho est une artiste pluridisciplinaire, architecte, chorégraphe et danseuse contemporaine. Elle jongle avec les arts pour réfléchir au rapport entre le corps et l'espace.
Elle essaie de donner plus de valeur à des personnes qui ont vécu des certains moments,
elle est très culottée, dans le bon sens du terme, parce que c'est vraiment, elle touche à des ses mimiques et une interprétation des choses qui est vraiment au-delà de ce qu'on voit.
La jeune artiste libanaise questionne, elle n'a pas laissé indifférente son audience, laquelle compte de nombreux professionnels comme Christophe, directeur de programmation français.
Ça fait partie, moi, des jeunes artistes de la scène libanaise actuelle, émergente, et que je trouve absolument passionnante. Et puis j'aime beaucoup l'idée que, voilà, des jeunes femmes artistes, à leur tour, travaillent cette histoire-là et qu'il puisse y avoir un passage de relais entre générations.
Rida Hachicho, qui est née et qui a grandi à Saïda, au Liban, participe à Bipod pour la deuxième fois, Elle y est invitée en tant que membre du collectif Multaka Laymoun, Jumana Risk, chargée de communication du festival.
Multaka Laymoun, c'est la rencontre. Laymoun, c'est orange en arabe. Et donc, c'est la rencontre. Et Laymoun, c'est vraiment tout ce qui est jeune. Et donc, c'est vraiment très frais, en fait. Donc, Multaka Laymoun, avec tout ce qu'il y a comme fraîcheur et comme nouveaux talents et talents émergents au Liban et dans le monde arabe.
La rencontre entre ces talents émergents et les programmateurs du monde entier, car c'est bien là l'un des objectifs principaux de Bipod, développer la scène de la danse contemporaine dans le monde arabe en offrant un réseau aux jeunes danseurs du Maghreb et du Moyen-Orient.
Bipod reçoit des directeurs de festivals internationaux qui viennent eux-mêmes choisir leur programmation à travers les talents libanais ou bien même les talents régionaux de la Jordanie, de l'Égypte ou bien du Maghreb.
Cette année, Bipod a ainsi accueilli 18 chorégraphes et danseurs contemporains du monde arabe, de la Tunisie à la Jordanie en passant par la Palestine. Mia Abis, directrice artistique du rendez-vous.
On a remarqué à quel point cette plateforme était utile aux artistes. En 2009, on a eu dans les alentours de 150 programmateurs, directeurs de festivals du monde entier qui sont venus à Beyrouth pour rencontrer ces artistes et pour savoir qu'est-ce qui se passe en danse contemporaine dans le monde arabe.
Depuis son lancement en 2004, Bipod a généré de nombreuses productions internationales et lancé beaucoup de carrières, comme celle de Bassam Abou Diab, danseur, acteur et chorégraphe libanais, qui a présenté cette année In Contro, une performance sur la communication, l'échange entre deux cultures, avec l'artiste italien Jacopo Iena.
I'm Jacopo, I'm Italian, and I'm a dance artist.
Okay, Raham, il nafsi chi, ana Bassam, wa ana raqis wa mumassil min Lebanon.
Bassam Abou Diab est aujourd'hui un acteur, danseur et chorégraphe établi. Il tourne à travers le monde, mais le jeune artiste libanais a fait ses premiers pas sur scène il y a un peu plus de 10 ans avec Bipod.
J'ai commencé à danser avec la compagnie. J'ai fait 4 ou 5 performances en tant que danseur avec Makamat. Ça a été un véritable tremplin pour présenter mon travail et mes idées.
En 15 ans, le festival libanais a présenté près de 300 performances aux professionnels de la danse contemporaine du monde entier. 110 étaient créées et interprétées par de jeunes artistes du monde arabe.
Bain de culture, le concert.
Une balade musicale dans ce bain de culture avec les Turqueries qui sont en ce moment dans notre région. Alors les Turqueries, en fait, c'est un quintet, un ensemble en tournée depuis le début de la semaine au Maroc. 5 musiciens qui mêlent violoncelle, violon baroque, percussion, oud. Un voyage musical à la croisée entre Orient et Occident. Nous sommes avec Léo Fabre-Cartier, lui joue du oud dans l'ensemble Les Turqueries et il retrace le parcours de ce quintet qui joue encore ce mardi à Fès, à Darbata.
Et on a eu vraiment envie de créer un espace de rencontre entre ces deux musiques qui ont plein de points communs, que ce soit l'ornementation, l'improvisation, la danse, les tempéraments inégaux. Et donc on cherchait vraiment à créer un espace de rencontre pour montrer qu'en fait ces univers, ces cultures que parfois on nous décrit comme très éloignées sont en fait finalement très proches. Et les Turqueries, le nom des Turqueries renvoie à une mode qui existait donc à l'époque baroque, au XVIIIe siècle en France, et XVIIe siècle, une mode qui consistait à imiter l'Orient. Donc à l'époque, on est à la cour de Louis XIV, et l'Europe de l'Ouest est fascinée par l'Empire ottoman, empire extrêmement puissant à l'époque, et les musiciens commencent à composer ce qu'on appelle des Turqueries, qui sont des imitations de ce que serait la musique du palais de Topkapı. Bon, en fait, c'est très éloigné de la musique qui était réellement jouée dans ces palais, mais c'était une mode qui allait avec toute la mode de l'orientalisme à cette époque-là. La musique qu'on joue réellement sur scène, c'est de la musique inspirée. C'est des thèmes de l'époque renaissance et baroque occidentale et des thèmes de la musique classique ottomane avec une petite incrustation de musique arabe-andalouse. Et de ces thèmes-là, on se les approprie et on en fait des arrangements propres à notre formation un peu hétéroclite et originale. C'est pas une fusion au sens où on va mettre au sein d'une même pièce des thèmes issus des deux univers, Par contre, on va jouer l'un après l'autre des morceaux des deux cultures, où les musiciens donc de la partie baroque, Sacha, Véronique et Simon, s'intègrent à la partie orientale, donc jouant à leur propre manière, jouant avec les ornements baroques, notre musique ottomane, et inversement sur les thèmes renaissance et baroque, Thibaut et moi, donc Derbouka et Oud, nous intégrons avec notre jeu qui est propre, et c'est ainsi que se crée la rencontre. Alors, il y a eu déjà une mode depuis quelques décennies chez les musiciens baroques européens de chercher à s'ouvrir vers l'Orient, notamment avec des musiciens comme Jordi Savall. Cela dit, c'est souvent des orchestres baroques qui créent une rencontre spontanée pour un programme précis avec quelques musiciens orientaux. Alors que chez les Turqueries, c'est vraiment l'essence même de ce projet, cette rencontre est l'essence même, et depuis le début, des musiciens des deux univers sont présents. Et en effet, une formation avec du oud et du théorbe, du violon baroque, du violoncelle baroque et des percussions orientales, un quintet comme ça, j'en connais pas d'autres.
L'ensemble Les Turqueries termine sa tournée au Maroc. Ils étaient hier soir à l'Institut français de Meknès. Et dernière date, il ne faut pas les rater, ce sera ce mardi à Fès, à Darbata.
Bain de culture, cinéma.
Pour terminer ce bain de culture, retour sur l'une des sorties cinéma de cette semaine. Un film que vous pouvez voir d'ailleurs dans les mégaramas du Maroc, entre autres. C'est le dernier film de Étienne Chatilly. Un univers particulier, souvenez-vous peut-être du réalisateur qui avait déboulé à la fin des années 80 avec ce film « La vie est un long fleuve tranquille », la célèbre scène avec Marie-Thérèse enceinte à l'insu de son plein gré.
Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie.
Mais madame...
Marie-Thérèse, rappelez-vous. Vous êtes bien sortie une fois avec un garçon.
Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons.
Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir.
Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal.
Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire.
Criez pas. Je vous ramène.
Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible.
Mais madame, je vous jure que j'attends un bébé, ça c'est sûr. Mais que je n'ai jamais couché avec un...
Étienne Chatilly est récidivé avec un gros succès, Tanguy, c'était au tout début des années 2000, l'histoire d'un grand-fils, pot de colle, qui hélas revient, Gaëtan Plenet.
Bon. Oui ? Tanguy ?
16 ans plus tard, voilà de nouveau André Dussolier et Sabine Azéma, alias Paul et Edith, flanqués de leur grand enfant, Tanguy.
Je croyais que t'étais parti coucher hier soir.
Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul.
C'était nul. Jusqu'à 6h du matin.
Tanguy a 44 ans, toujours aussi désespéré et désespérant, campé par un Éric Berger qui semble ne pas avoir pris une ride. Il a en revanche une enfant, une ado, Meilin, avec qui il revient de Chine.
T'as raison, Edith. On est en train de se faire enfler.
Finalement, rien n'a vraiment changé. Le terrible rejeton s'incruste et au passage, tout le monde en prend pour son grade. Les bourgeois, la communauté asiatique, évidemment les enfants pots de colle. Bref, beaucoup de personnages détestables, mais c'est assumé par le réalisateur Étienne Chatillez.
J'aime bien gratter où ça fait un petit peu mal. Puis dans tous les films du monde, surtout dans les westerns, on aimait bien le méchant. On s'identifie en général pas mal au méchant, ne serait-ce que des gens disant ça va, si je suis pas comme ça.
Une rupture, c'est comme un deuil. Ça dure un an.
Parce que tu comptes rester ici un an.
La recette reste donc la même et semble fonctionner d'après les critiques, même si certains regrettent un peu le côté déjà vu.
L'essentiel, c'est qu'il dégage.
Tanguy, le retour, c'est à voir dans les mégaramas du Maroc. Je vous souhaite un excellent dimanche. Nous avons rendez-vous, mais oui, la semaine prochaine.